Vous êtes avec SBS French.
Les principales informations de ce jeudi 22 juillet 2021. 124 nouveaux cas de Covid détectés en Nouvelle-Galles du Sud, c'est un nouveau record depuis l'apparition de ce foyer épidémique le mois dernier. Le centre de la Chine est lui en proie à des inondations catastrophiques, des milliers de personnes sont actuellement privées de tout, on ira en reportage sur place. Et à Tokyo, nous sommes à la veille de l'ouverture officielle des Jeux Olympiques. Les Japonais, eux, sont plus que jamais opposés à la tenue de cette compétition qui, en cette période de pandémie, ils auraient préféré voir annulée. On n'a jusqu'à présent pas constaté une explosion des nombres de cas de Covid à Sydney depuis l'apparition ici de ce variant Delta. Mais plus de 3 semaines après le début du confinement, on ne constate pas de baisse non plus. Au contraire, puisque aujourd'hui, les autorités ont annoncé le plus important nombre de cas recensés sur une seule journée, un nombre de cas qui s'établit aujourd'hui à 124. Un record qui pourrait même encore être battu dans les jours à venir, c'est l'avertissement qu'a donné ce matin Gladys Perrégé-Clion.
I'm expecting case numbers to go up even higher. It's really, really important to continue those high rates of testing because, as Dr. Chant said earlier, this week and towards the end of last week, it's really important for us to scoop up all the possible cases that are out there. And we're also finding cases when we're testing workers during that 3 days of required testing.
Dans le Victoria, où on entame une deuxième semaine de confinement, 26 nouveaux cas recensés aujourd'hui, mais presque tous, à l'exception de 2, étaient déjà isolés durant leur phase infectieuse. Et puis enfin, en Australie-Méridionale, où la population est, elle, confinée depuis mardi soir, les autorités recensent aujourd'hui 6 nouveaux cas, parmi lesquels on trouve un enfant de moins de 5 ans. Les autres sont des adultes qui ont tous visité récemment un vignoble qui se trouve dans la banlieue d'Adélaïde. Le dirigeant de l'État, Stephen Marshall, estime que la forte contagiosité du variant Delta justifie pleinement sa décision d'avoir instauré le confinement.
We've gone hard, we've gone early, we've gone with the cooperation of the people of South Australia, and we need that cooperation to continue into the future. We now have 12 cases.
Et le retour des confinements, c'est aussi le retour de la division de l'Australie en toute une série de micro-États. L'Australie occidentale a ainsi annoncé la fermeture de sa frontière avec l'Australie méridionale et le Queensland, qui bloquait jusqu'à présent les arrivées de seulement les personnes venues de Sydney, ferme à partir de demain 13h les portes de son État à toute la Nouvelle-Galles du Sud. Seule exception, une petite zone tampon de part et d'autre de la frontière au sein de laquelle les habitants pourront continuer à circuler d'un État à l'autre. Mais cette zone tampon n'inclut pas la ville de Coffs Harbour. Et ces confinements, ils coûtent cher, 300 millions de dollars par jour, d'après le trésorier fédéral Josh Frydenberg, qui a rappelé hier qu'actuellement c'est la moitié de la population australienne qui est confinée. Il était sur ABC ce matin, il s'est également exprimé à propos de la campagne de vaccination, une campagne qui d'après lui pose de nombreux défis.
There are some things we can control, other things we can't. More importantly, I accept, the Prime Minister accepts, the government accepts the responsibility for our health and economic response. But I want to point out to you as well, just as the vaccine rollout has had its challenges, we have also saved some 30,000 lives from being lost. If you'd seen the loss of life that we'd seen across the OECD on average, more than 30,000 lives would have been lost right now. Thankfully, it's under 1,000.
Et la veille déjà, la campagne de vaccination et son rythme très lent étaient déjà au cœur de la conférence de presse donnée par le Premier ministre, conférence de presse au cours de laquelle un échange très musclé s'est déroulé entre d'une part Scott Morrison et de l'autre Jace, le présentateur de la matinale de Kiss FM. Ce dernier a insisté pour que le Premier ministre accepte de reconnaître sa responsabilité dans l'échec qui est pour l'instant la campagne de vaccination, responsabilité reconnue du bout des lèvres par Scott Morrison, mais ça n'était pas suffisant pour ce Jays. Il est même allé jusqu'à demander à Scott Morrison de présenter des excuses, estimant qu'il était, en raison de cette campagne de vaccination ratée, responsable au moins partiellement du reconfinement de la moitié de la population. Scott Morrison, sans surprise sur ce sujet, ne s'est pas excusé. Et ce matin, c'est le leader de l'opposition, Anthony Albanese, qui est revenu sur cette polémique. Il a notamment expliqué comment lui s'y serait pris pour assurer la campagne de vaccination.
I reckon he was channeling Elton John, you know. Sorry seems to be the hardest word. He would have been better off us saying sorry. Everyone has made mistakes. No one's perfect. The problem is that, you know, he had said so many times it's not a race. Truth is, it is a race. It always was a race. We would have done what the experts were saying and done 5 or 6 deals last year. And yep. We were saying it. We were saying you got to hedge your bets here.
Des pluies torrentielles et des inondations dévastatrices ravagent actuellement la vallée du fleuve jaune dans le centre de la Chine, une région où est tombée en 3 jours plus de pluie que normalement en une année entière. Sur place, des milliers de personnes sont actuellement privées d'électricité, de téléphone ou encore d'accès à Internet. On écoute le reportage dans la région de Stéphane Lagarde et Huang Chengquang, envoyés spéciaux pour RFI.
Les valises à roulettes au milieu de la chaussée, peu de voitures en circulation de toute façon, comme de nombreux habitants de la province du Renan. Ce couple âgé ne sait pas encore où il va passer la nuit.
On va vers la rue Yuming. On n'a pas trouvé où dormir pour l'instant. Comme vous le voyez, il n'y a pas de bus, pas de taxi. Alors on marche. Près de 10 000 personnes ont dormi à la gare hier. Tous les hôtels du quartier sont pleins. On va à 4 stations de métro d'ici pour voir s'il y a des chambres.
Les hôtels ont été pris d'assaut après les scènes de chaos mardi soir. Les voitures endommagées, la boue sur le bitume témoignent de la violence de la montée des eaux. La rupture des télécommunications aussi. Le réseau est encore très instable, nous dit Noé dans son SUV. Ce trentenaire dépanne les habitants sans voiture. Il faut rouler pour capter le Wi-Fi, dit-il. Rouler au marché pour pouvoir téléphoner, pour se ravitailler, explique encore cette retraitée.
Beaucoup de magasins sont fermés, certains n'ont plus d'électricité et d'autres ont été dévalisés. Les habitants des quartiers les plus touchés par les crues ont fait les courses pour tenir plusieurs jours, ça a été la razzia.
Les razzias toujours chez cet épicier resté ouvert, où le café dans les gobelets en carton a la même couleur que la rivière Chilireux, qui pourrait bien ressortir de son lit ces prochains jours comme d'autres cours d'eau à Zhengzhou, si la météo reste à la pluie. Stéphane Lagarde, Wang Chengquang, Zhengzhou RFI.
Direction l'Europe maintenant, où le Royaume-Uni veut renégocier certains termes de l'accord conclu avec l'Union européenne à propos du Brexit. Plus particulièrement, il s'agit de la question des échanges commerciaux avec l'Irlande du Nord, qui pourtant avait fait l'objet d'un accord signé l'an dernier. David Frost, le ministre britannique en charge de la question du Brexit, pense que certains points sont à revoir. Il estime qu'en l'état, l'accord signé donc l'année dernière n'est pas satisfaisant.
We have worked with the EU to try to address these challenges. Some avenues for progress have been identified in certain areas. But overall, those discussions have not got to the heart of the problem. Put very simply, we cannot go on as we are.
Et Brandon Lewis, qui lui est secrétaire d'État en charge de l'Irlande du Nord au sein du gouvernement britannique, indique pour sa part que la Grande-Bretagne veut un moratoire afin de renégocier les conditions du protocole sur l'Irlande du Nord signé avec Bruxelles.
See an opportunity to proceed differently, to find a new path, to seek to agree with the EU through negotiations, a new balance in our arrangements covering Northern Ireland to the benefit of all. And it is in that spirit that today's command paper outlines the new balance we wish to find. It is a balance which needs to ensure that goods can circulate much more freely within the UK customs territory, whilst ensuring that full processes are applied to goods destined for the EU. It's a balance which needs to enable all in Northern Ireland to continue to have normal access to goods from the rest of the UK.
Et puis on traverse la Manche pour aller en France, où le Premier ministre Jean Castex a confirmé hier dans une interview donnée à la télévision que le pays était entré officiellement dans la 4e vague du Covid. Depuis une semaine, le nombre de nouveaux cas a presque doublé. Il atteint désormais les 20 000 cas par jour, des chiffres qu'on n'avait pas vus depuis le mois de mai dernier. Les parlementaires, de leur côté, affinent le texte de loi qui rendra obligatoire le pass sanitaire. Mais celui-ci, en fait, est déjà indispensable pour rentrer dans des lieux culturels ou sportifs recevant plus de 50 personnes. Alors, comment ça se passe ? Écoutez ce reportage effectué à Paris, dans un musée du 5e arrondissement. Laura Laplan, RFI.
Bonjour. Pour se rendre au Muséum d'Histoire Naturelle, il faut désormais montrer patte blanche. Ce matin, des centaines de visiteurs patientent plusieurs minutes à l'extérieur. Et pour cause, les entrées sont contrôlées.
La vaccination sur l'application.
Vaccination. Ça y est, j'ai
chaque personne doit montrer un QR code et une pièce d'identité. Une mesure pénible pour Mélanie.
On avait prévu cette journée depuis longtemps, donc on se plie. Mais on n'est pas vacciné, donc ça montre notre avis sur le sujet.
Mais dans cette file d'attente de plusieurs mètres, tout le monde n'a pas le même avis. Et Nora est venue au musée avec son mari et ses enfants.
C'est une bonne mesure en fait pour essayer d'inciter les gens à se faire vacciner et à ce que tout le monde puisse revivre comme avant. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de se faire vacciner et que du coup ils se sentent bloqués, mais bon, en même temps, les vaccinations obligatoires, c'est pas la première.
L'entrée en vigueur du pass sanitaire signe aussi la fin de l'obligation du port du masque à l'intérieur. Mais ici, il faudra quand même le porter. Emmanuel Scouglio, c'est le directeur général délégué du Muséum d'Histoire Naturelle.
On a maintenu l'obligation du port du masque dans les espaces fermés. Elle recommande aux gens de le porter à l'extérieur. Pourquoi ? Parce que nos personnels ne sont pas tous nécessairement encore vaccinés aujourd'hui. Pour rassurer tout le monde, les visiteurs et nos personnels, on a décidé pour le moment de maintenir l'obligation du port du masque dans les espaces fermés.
Pour le moment, seuls les lieux culturels, les lieux de culte et les établissements sportifs sont concernés par le pass sanitaire. Début août, il s'appliquera aussi aux bars et restaurants.
Et l'annonce officielle a été faite hier soir. C'est donc Brisbane, mais aussi la Gold Coast, qui accueilleront les Jeux Olympiques en 2032. Une annonce célébrée hier soir avec un grand feu d'artifice dans la capitale du Queensland. Le ministre fédéral des Sports, Richard Colbeck, a lui indiqué qu'il était impatient de découvrir la prochaine génération d'athlètes, celle qui participera à cette compétition.
They will make a huge difference to our country. And the timing coming on the eve of the Tokyo Olympiad, those young Australians who might aspire to represent their country now can aspire to do that on home soil, which is a rare privilege.
Mais avant de nous projeter sur 2032, il y a bien sûr les Jeux de Tokyo, puisque la cérémonie officielle d'ouverture aura lieu demain soir. Des Jeux qui, sur place, sont loin d'enchanter les Japonais. Il y a quelques semaines encore, ils étaient plus de 80% à souhaiter que ceux-ci soient annulés. Ils ont finalement été maintenus et ça leur pose problème, puisque les Japonais, dans leur grande majorité, craignent que les athlètes venus des quatre coins de la planète ne respectent pas le protocole sanitaire très strict qui leur est imposé. À Tokyo, le reportage de Cléa Broadhurst pour RFI.
Des mesures draconiennes ont été mises en place pour la venue des étrangers au Japon. Qu'ils soient sportifs, encadrants ou journalistes, ils doivent demeurer dans une bulle le temps de l'événement. Mais la peur du danger que cette vague de nouvelles arrivées crée est parfois considérée menaçante, comme l'explique Koichi Nakano, un professeur de sciences politiques à l'université de Sofia à Tokyo.
Ce que je trouve très inquiétant, c'est que contrairement à l'esprit même des JO, la xénophobie pourrait augmenter au Japon suite au maintien des Jeux pendant la pandémie. Il y a toujours eu au Japon, pays insulaire, l'association que le danger venait de l'étranger. Et c'est de pire en pire à cause des craintes des nouveaux variants aujourd'hui. Alors que les étrangers qui viennent sont testés, vaccinés, mis en quarantaine. Mais la perception, c'est qu'ils représentent un danger.
C'est une crainte palpable, mais qui n'est pas non plus dans tous les esprits.
J'ai hâte que les JO commencent. Je ne suis pas inquiet. C'est bien que ça aille.
J'ai conscience des risques, même avec les mesures, mais il ne faut pas en faire toute une histoire. C'est sûr que des cas vont apparaître partout. Il faut arrêter de dramatiser la situation.
Et dans l'ensemble, les Tokyoïdes disent se sentir plus rassurés à présent que la campagne de vaccination semble enfin être réellement lancée. Cléa Broadhurst, Tokyo, RFI.
Et puis, comme toujours, on termine cette page d'information avec la météo du jour en Australie. 17 degrés des nuages aujourd'hui à Perth, 11 degrés à Adélaïde, 12 degrés à Melbourne, du soleil et 11 degrés à Canberra. Et tant mieux, parce que ce matin, eh bien, il y avait du givre et des températures négatives. Soleil également à Sydney avec 17 degrés de prévu aujourd'hui, 20 degrés à Brisbane et jusqu'à 32 degrés à Darwin.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.